France Culture. Les nuits de France Culture.
Vingt mille morts. Voilà le bilan établi par les historiennes et les historiens des massacres de la Semaine sanglante qui signèrent la fin de la Commune, ainsi que les exécutions qui s'en suivirent. Car, loin d'être satisfait d'avoir repris Paris, Thiers et son gouvernement cherchent à faire régner la terreur, à donner une leçon que les Parisiens n'oublieront jamais. Les communards sont dénoncés, traqués, exécutés, dans ce que l'historien et spécialiste de la Commune Jacques Rougerie appellera sans hésiter des massacres systématiques. La Commune, cette utopie joyeuse d'un gouvernement du peuple par le peuple, née dans la fête et la liesse populaire, finit écrasée dans un bain de sang, commandé par le gouvernement de Versailles et son chef royaliste. Symbole de l'espoir déchu d'un peuple qui, pendant 72 jours, a entrevu la possibilité d'un monde nouveau, d'une gouvernance plus horizontale et d'un idéal autre que l'humanisme de pacotille qui traverse les classes dominantes de cette fragile république. Fin tragique donc de cet épisode singulier de l'histoire de France, sur lequel revient ce numéro de la Tribune de l'Histoire d'Alain Decaux, André Castelot et Colin Simard, réalisé par Alain Barou et diffusé pour la première fois le 23 mai 1962 sur la chaîne parisienne.
André Castelot, Alain Decaux et Colin Simard vous présentent leur émission La Tribune de l'Histoire.
Avec aujourd'hui Louis Arbessier, Pierre Delbon, Robert Parti, Jean-Louis Maury, Gaëtan Jor, Jacques Bretonnière, Pierre Constant, Marcel Lestang, Alain Roland.
Chef opérateur du son, Jacques Chardonnier. Assistante, Lucette Alléo. Réalisation, Alain Barou.
Notre émission de ce soir, nous en avons trouvé le sujet en recevant le livre de Pierre-Dominique, La Commune, dont la librairie Hachette vient de publier l'édition définitive. Ce livre, c'est la meilleure explication qui soit de l'un des malentendus les plus tragiques de notre histoire. Malentendu limité à Paris, malentendu qui fit 20 000 victimes, pour la plupart innocentes. Ce livre, c'est aussi une remarquable réussite littéraire. Le style de Pierre-Dominique est incisif, direct, frappé d'images originales, personnelles. Il fait mieux qu'évoquer les épisodes qu'il raconte, il les ressuscite. Avec l'ouvrage de Pierre-Dominique, nous avons consulté ceux de La Ronze, d'Albert Olivier, d'Adrien Dansette et les témoignages bouleversants des acteurs de cette tragédie. Ce soir, ce n'est pas toute la Commune que nous évoquerons, mais son agonie, c'est-à-dire l'épisode humainement le plus dramatique.
La Tribune de l'Histoire vous prie d'écouter L'agonie de la Commune, une évocation d'Alain Decaux.
Comment et pourquoi était née la Commune? Demandons-le au grand historien Jacques Chastenet.
L'armistice conclu avec les Prussiens, Paris a remâché d'abord en silence son amertume. Mais plusieurs maladresses commises par l'Assemblée nationale réunie à Bordeaux vinrent l'exaspérer. Suppression de la solde des gardes nationaux, exigibilité immédiate des loyers arriérés et des effets de commerce échus, fixation à Versailles du siège des pouvoirs publics, occupation temporaire par les Allemands des quartiers ouest de la capitale, autant de mesures décidées ou ratifiées à Bordeaux qui blessèrent cruellement le peuple de Paris, à la fois dans ses intérêts et dans sa fierté. Dès le 15 février 1871, 200 bataillons de la garde nationale se sont fédérés et ont nommé un comité central. Le 26, une émeute a lieu place de la Bastille.
À Versailles, où s'était replié M. Thiers, chef du pouvoir exécutif, on prépara une répression que l'on voulut implacable. Les soldats qui allaient en être chargés furent longuement chapitrés. Ils auraient affaire à des bêtes féroces qui ne méritaient aucune pitié. Quand les communards, enragés de colère, se mirent à fusiller des otages, l'archevêque de Paris, le président Bonjean, d'innocents ecclésiastiques, la fureur répressive des Versaillais s'en trouva exaltée. Le massacre des otages par la Commune condamne celle-ci devant l'histoire. Rien, dans une guerre étrangère ou civile, n'est plus odieux que le système des otages. Mais l'esprit de vengeance qui anima les Versaillais demeure tout aussi injustifiable.
À la fin d'avril 1871, l'étau se resserre autour de Paris. Le 2 mai, le Conseil de la Commune cède la place à un comité de salut public. Le 21, les Versaillais s'infiltrent dans la ville par la porte de Saint-Cloud.
La semaine sanglante est commencée. À l'hôtel de ville, l'Assemblée de la Commune tient séance. Il s'agit de juger l'un de ses chefs militaires, Cluseret, accusé de l'une des défaites les plus cuisantes qu'ait éprouvée la Commune. Cluseret se défend avec énergie.
Les chefs d'accusation formulés contre moi, de simples racontards,
si vous voulez. Oh non !
En fait, j'ai été victime d'une mesure démagogique qui a détruit la discipline. La suppression de la cour martiale. Et pour le fort d'Ivry, je ne suis pas responsable de son abandon. Et au surplus, je l'ai repris. Si on ne m'avait pas arrêté, le fort tiendrait encore.
Citoyen, camarade.
De quel droit Billoret interrompt la séance de la Commune?
Citoyen, la permanence du comité de salut public vient de recevoir une dépêche de Dombrovski. Les Versaillais sont entrés dans Paris.
Non. Il faut aviser, citoyen. Et d'abord, nous prononcer sur le cas de Cluseret.
Alors qu'il est, la Commune a besoin de tous ses défenseurs. Je propose l'acquittement de Cluseret.
Oui, oui, bien, 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 bien. Citoyens, l'heure est venue de vaincre ou de mourir.
Donnons la parole à Pierre Dominique.
Les têtes s'inclinent sous les lampes. Et à la profondeur du silence qui suit ces mots tragiques, la Commune imagine celle d'un autre silence qui sera définitif, celui-là. Mis en présence de leur condamnation, les lâches se demandent où ils vont se cacher, et les braves comment ils vont pouvoir mourir.
De loin en loin, dans le crépuscule, les tocsins retentissent. De clocher en clocher, la nouvelle vole sur Paris. Les Versaillais sont entrés dans la ville. On appelle aux armes, les quartiers s'emplissent d'un vaste bruit d'armes, les gens se précipitent dans la rue, les gardes rejoignent leur bataillon. Sur les boulevards, sous les yeux ironiques des bourgeois, les fédérés défilent, se dirigeant vers l'ouest. Champs-Élysées, on entend vers Auteuil et Passy, ponctué du tonnerre sourd des canons, crépiter sans arrêt la fusillade. Que va faire la Commune?
On ressent ici, une fois de plus, l'incapacité des chefs civils de la Commune. Ils ne savaient qu'écrire et parler.
Celui qui commande l'armée versaillaise, c'est le maréchal de Mac Mahon. Mais le petit monsieur Thiers se tient minute par minute au courant de la situation. 10 fois par heure, il harcèle Mac Mahon.
Eh bien, monsieur le maréchal, où en sommes-nous?
Le corps de Circe s'est infiltré par les portes de Sèvres et de Versailles sans provoquer de réaction.
Les forts de Montrouge, de Bicêtre et d'Ivry?
Ils sont toujours entre les mains des fédérés.
C'est intolérable!
Je ne puis être partout, monsieur.
Et les incendies? Avez-vous des informations sur les incendies?
Tout ce que je sais, c'est que les communards ont l'intention de mettre le feu à plusieurs monuments. On me l'a fait savoir de façon précise. J'attends des détails.
Il importe de faire savoir cela à nos soldats. Ils sont pour la plupart des paysans. Et les paysans, plus que d'autres, ont horreur des incendies. Cela augmentera leur ardeur combative.
La parole est au citoyen de l'Écluse, délégué à la guerre.
Citoyen, il ne faut pas nous leurrer. Les Versaillais d'ores et déjà ont pénétré fort avant dans Paris. Il faut leur répondre. Aussi ai-je rédigé une proclamation dont je m'en vais vous donner lecture. Assez de militarisme. Plus d'état-major galonné et doré sur toutes les coutures. Place au peuple, aux combattants aux bras nus. L'heure de la guerre révolutionnaire a sonné. Le peuple ne connaît rien aux manœuvres savantes, mais quand il a un fusil à la main, il ne craint pas tous les stratégistes de l'école monarchiste. Aux armes, citoyens, aux armes. Il s'agit, vous le savez, de vaincre ou de tomber dans les mains impitoyables des réactionnaires et des cléricaux de Versailles, de ces misérables qui ont, de parti pris, livré la France aux Prussiens et qui nous font payer la rançon de leur trahison. J'ai fini, citoyens.
La parole est au citoyen Dombrovski.
J'apprécie assurément la haute inspiration de la proclamation du citoyen de l'Écluse. Mais je me demande si c'est bien le moment de détruire la hiérarchie et la discipline. Je crois que l'effet sera en définitive opposé à celui qu'escompte le citoyen de l'Écluse.
Ce sont là des paroles de défaitisme, citoyen Dombrovski. Ma proclamation sauvera Paris.
Mais en fait, cette proclamation a détruit l'armée de la Commune et réduit un corps organisé à une poussière de combattants. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que les communards n'obéiront pas aux délégués à la guerre et, de fait, sur 3 ou 4 points, des chefs énergiques parviendront à garder leurs hommes en main et à prolonger la lutte, à balancer même un instant le succès. Mais dans l'ensemble, à dater de ce moment où le pouvoir lui-même se suicide, l'anarchie s'installe pour préparer la mort.
Les communards qui, sur la rive gauche, combattaient au-delà du rempart, commencent à rentrer. Mais au lieu de courir au feu, ils s'éloignent du canon, marchent vers leur quartier. Les officiers s'efforcent de les arrêter avant qu'ils gagnent la rive droite.
Par ici, l'ennemi est là, aux Invalides.
Alors tu n'es pas au courant, l'officier. Tu n'as pas lu la proclamation de l'Écluse. C'est maintenant la guerre des barricades, chacun dans son quartier.
Dès le mardi, Paris n'est plus qu'un grand corps sans âme.
Un feu qui brûle dans la nuit, mais qui n'est plus alimenté. Une main invisible rapproche les morceaux de bois à demi consumés du bûcher afin que s'achève, que se complète le sacrifice. Il n'y a plus de commune depuis le lundi matin à 10 ou 11 heures. Plus de comité de salut public depuis le mardi. Plus même de procureur de la commune, puisque celui-ci, Raoul Rigaud, est devenu un combattant.
À l'hôtel de ville, c'est la panique.
Les Versaillais approchent! Je propose d'abandonner la maison commune!
Non, citoyens! Nous n'avons pas le droit de fuir! La commune, au contraire, doit se masser à l'hôtel de ville et mourir là!
Mais tu en parles à ton œil, citoyens de l'Écluse! Nous ne devons pas priver Paris de nos lumières!
Que chacun fasse à sa guise et selon sa conscience!
Moi, je propose que nous quittions l'hôtel de ville! Et qu'en partant, on y mette le feu.
Oui, c'est vrai. Il faut brûler l'hôtel de ville. Et il faut brûler tout Paris.
Alors, on évacue l'hôtel de ville. L'un des membres de la commune, Pindy, y reste seul avec quelques employés.
C'est pour ce soir, la grande flambée. Il faudra disposer de distance en distance les barils de poudre qui alterneront avec les bonbonnes de pétrole.
Il faut que cela brûle, que tout brûle. On ne leur laissera rien. Rien.
Et bientôt, des flammes gigantesques vont monter vers le ciel devenu rouge. Tout ce qu'il y a de brave dans la commune, Varlin, Proto, Ranvier, Brunel, est aux barricades. Rigaud va y passer la journée du mercredi. Ferré, méthodiquement, fait sa besogne. Cependant, du parc Montsouris au boulevard MacDonald, en passant par le Luxembourg, les petites rues du 11e et le boulevard de la Chapelle, 10 ou 15 000 furieux reculent de barricade en barricade, tirant après eux leurs canons, le cœur plus ferme que leurs pavés. Les arbres du square Saint-Jacques se tordent dans le vent au-dessus d'un hérissement de poutres et de pavés, d'où jaillit la mort. Les fédérés se battent par groupes de dévoués, d'acharnés, autour d'un homme, le plus fort, le plus brave. Ils se battent sans espoir, pour le principe, comme leur père, par un sombre entêtement, pour l'honneur. Et autour d'eux, la ville agonise. La ville qu'ils adorent, sous les regards étonnés des Prussiens.
Irrésistiblement, les Versaillais avancent vers le centre de Paris. Et plus violente se fait la défense des communards, plus furieuse devient la réaction des Versaillais.
Et c'est la logique impitoyable des guerres civiles, la colère des communards grandit. Tout à coup, un cri.
Les otages.
Mais c'est vrai, ça. Les otages.
Nous sommes trahis. Qu'on exécute les otages.
Mais comme ça, on fera peur à Monsieur Thiers.
Puis si on doit mourir, qu'il meure avant nous.
Oui, oui.
Oui,
oui, qu'il meure avant nous.
La nuit tombe au soir du 24 mai. À la prison de la Roquette, vers 7 heures.
Voici un ordre, citoyen directeur. Il s'agit de livrer l'archevêque d'Arbois, le président Bonjean, l'abbé de Guéry, curé de la Madeleine, et les trois pères jésuites, Allard, Claire et Ducoudray.
Qui a signé l'ordre?
Ferré. Reconnais-tu la signature?
Oui, je la reconnais. C'est bien. Je vais extraire les prisonniers de la cellule. Par ici.
Successivement, les prisonniers désignés sont extraits de leurs cellules. Monseigneur d'Arbois est très déprimé. On suit les couloirs et les chemins de ronde. L'archevêque donnant le bras au président qui peut à peine se traîner. On entend le bruit voisin de la bataille. Derrière les otages, une cinquantaine d'hommes, garibaldiens, vengeurs de la République, gardes nationaux, soldats déserteurs, des gamins. Le soir tombe. On y voit mal. Deux des hommes du cortège portent des lanternes. Les otages n'ont pas beaucoup parlé. En partant, Bonjean a demandé...
Qui nous condamne?
La justice du peuple.
Oh, celle-là n'est pas la bonne.
Il a eu un appel désespéré, à mi-voix, pour sa femme et ses enfants. L'archevêque, lui, devant la grille, dit à haute voix comme pour lui-même.
Et pourtant, j'ai écrit à Monsieur Thiers.
Nous le savons bien. Et c'est sa faute si vous êtes là.
Quand ils furent en bas, on les aligna. En face, les exécuteurs faisaient bloc. L'un des jésuites ouvrit sa soutane, montra sa poitrine. L'archevêque portait la croix pectorale de Monseigneur Affre, un prédécesseur tué en 1848. Il avait au doigt l'anneau pastoral d'un autre de ses prédécesseurs, Monseigneur Cibourg, assassiné à Notre-Dame. Celui qui commandait le peloton s'appelait Sicard. Il leva le bras, puis, ne se trouvant pas assez militaire...
Fortin, passe-moi ton sabre.
Fortin le lui passa. Mais la foule était trop pressée pour que Sicard pût le lever. il se contenta de crier
« Feu !»
Cinq otages tombèrent. Monseigneur Darbois resta debout.
« Il est donc blindé, celui-là !»
Un coup à bout portant abattit l'archevêque. Il y eut encore quelques coups de feu. Bonjean se roulait à terre. On l'acheva.
En revenant à la mairie du 11e arrondissement, les exécuteurs rencontrent quatre membres de la commune. Ils disent à l'un d'eux vers Morel
« Eh bien, cette fois, nous venons de fusiller l'archevêque.
Ah, vous avez fait là une jolie besogne. Nous n'avions peut-être qu'une dernière chance d'arrêter l'effusion de sang. Vous venez de nous l'enlever. Maintenant, c'est fini. »
À 11h du soir, on apprit à Delescluze l'exécution des otages. Il écrivait continua à décrire en écoutant, puis...
Comment sont-ils morts?
On le lui dit. Il mit sa tête entre ses mains.
Ah, quelle guerre, quelle guerre.
Puis il ajouta...
Nous aussi, nous saurons mourir.
Le 25 mai, les Versaillais emportent les positions de la butte aux Cailles et les derniers postes communards de la rive gauche. On se bat à la Bastille et au château d'eau. Une dernière réunion de quelques membres de la commune se tient à la mairie du 11e arrondissement.
Nous sommes foutus. Je propose d'ouvrir des négociations avec Versailles par l'intermédiaire de l'ambassade des États-Unis.
Un débat très vif s'engage. Delescluze dit non d'abord. Puis une majorité se précise, favorable aux négociations. On désigne Delescluze, Arnold et Vaillant. Les trois hommes partent pour Vincennes, où se trouve M. Washburn, représentant des États-Unis. Écoutons Pierre Dominique.
Delescluze est en par-dessus gris, chapeau de forme, écharpe rouge sur la redingote. Mais à la porte de Vincennes, les gardes croisent la baïonnette et refusent de baisser le pont-levis.
On ne passe pas.
Mais vous me reconnaissez, je suis Delescluze. Je suis chargé d'une mission auprès du représentant des États-Unis.
Pour qui tu nous prends?
Je vous ai dit que j'étais Delescluze. Me croyez-vous capable de trahir? La mission que j'ai à remplir peut empêcher un massacre.
Rien à faire. C'est trop facile de se défiler. On sera collés au mur, d'accord. Mais tous ensemble, et vous avec nous.
Je vous jure, citoyens...
On ne sort pas de Paris.
C'est bon. Eh bien, venez, mes amis. Tout est bien fini.
Encore un qui veut foutre le camp.
Un témoin voit Delescluze maigre et sec s'éloigner avec ses compagnons vers Paris, sur quoi flotte un énorme panache de fumée noire. Courbé sur sa canne, Delescluze est l'image du désespoir. En chemin, Delescluze ne croise que les hommes qui se replient. Il les salue de la main, poursuit sa marche. Les balles autour de lui cassent les branches des arbres, fouettent les murs. On essaie de le retenir, et tranquille et grave, il dit...
Non, laissez-moi. Je ne crains pas la mort. Vous êtes jeune, vous. Mais moi, ma vie est finie.
La place est un enfer. Le centre de tous les feux. Devant lui se dresse la barricade abandonnée qui s'appuie au numéro 1 et 2 du boulevard Voltaire et commande les approches de la place. Il la gravit, sans un mot, sans un geste. Et sur la cime, il se dresse. Tout droit. De lui, la fusillade éclate. Frappé de trois balles, il se renverse sur le pavé.
c'en est fait de la commune. À travers Paris, les fédérés sont traqués, rejoints, fusillés. Une ultime résistance le samedi 27 mai, celle du Père Lachaise. Au milieu des tombes, dans la nuit qui vient, les derniers communards luttent encore. La nuit est tombée et voici les Versaillais qui se ruent dans le cimetière. Et alors, entre les tombes, dans l'obscurité, au milieu des fourrés, dans l'odeur des herbes foulées, ce sont d'effrayants corps à corps. On ne se voit pas mais on se tue, on s'injurie, on s'égorge. On se bat à l'arme blanche dans les caveaux. Au matin du dimanche 28 mai, le Père Lachaise est aux mains des Versaillais. Les derniers fédérés et les quelques survivants sont traînés devant un mur et fusillés. Dans l'après-midi du dimanche, vers 3 heures de l'après-midi, les dernières barricades tombèrent. La révolution était morte. Mais la répression, elle, ne faisait que commencer. Le massacre allait durer longtemps, très longtemps. Le 15 juin, la presse parlait à mots couverts d'exécution au bois de Boulogne. Le dimanche matin, de tout jeunes soldats des fusiliers marins de la classe de 1871 pénétraient dans un débit de boissons de la place Voltaire. Avec de gros rires, ils comptaient leur entrée dans Paris. Des consommateurs les questionnèrent.
Et il y a beaucoup de morts.
Oh, nous avons hors de ne pas faire de prisonniers. C'est le général qui l'a dit. S'ils n'avaient pas mis le feu, on ne leur aurait pas fait ça. Mais comme ils ont mis le feu, il faut tuer.
Et ce matin, il en est venu en blouse. Vous n'allez pas me fusiller, peut-être, qu'il a dit. Oh, que non. Alors nous l'avons fait passer devant nous et bam, bam.
Oh, ce qui gigote.
Les incendies. Ce mot revient comme un leitmotiv dans tous les rapports des agents de l'ordre. Les Versaillais semblent littéralement obsédés par le feu. De sinistres légendes naissent qui vont coûter la vie à d'innombrables innocents.
Des rapports circonstanciés nous font connaître que les pompiers de Paris, contaminés par l'ignoble virus communard, ont rempli leurs pompes de pétrole de façon à activer les incendies. Il est urgent de s'assurer de leur personne.
Donc, on arrête les pompiers. À la caserne du boulevard de Reuilly, 9 sont pris au hasard et fusillés. Écoutons un contemporain.
Toute femme suspecte est fouillée. Si l'on découvre sur elle un rat de cave, des allumettes, si elle porte une bouteille, quoi qu'elle contienne, elle devient aussitôt une pétroleuse et elle est fusillée, comme ayant été capturée les armes à la main.
Le 24, à la tribune de l'Assemblée nationale, M. Thiers déclare
« Nos vaillants soldats se conduisent de manière à inspirer la plus haute estime, la plus grande admiration à l'étranger. »
Mais dans une circulaire au préfet, le même monsieur Thiers écrit
« Le sol est jonché de leurs cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon. »
La peur, cette peur collective, plus affreuse, plus angoissante que la peur individuelle, la peur tenaille Paris. Ceux qui craignent pour eux-mêmes dénoncent leurs voisins, afin qu'on cesse de les soupçonner d'avoir été communards. Durant des semaines, les autorités sont submergées par des lettres, la plupart anonymes. Du 22 mai au 13 juin, le gouvernement de M. Thiers reçoit 379 823 dénonciations anonymes. Ces dénonciations écrites ne font que s'ajouter à celles de la rue, les plus dramatiques, car presque toujours, elles sont suivies d'exécutions sommaires. Le Times du 29 mai écrit
aucun cadavre d'homme tombé dans l'attitude d'un combattant. Mais d'autre part, il y a un nombre effroyablement grand d'hommes qui ont été exécutés sommairement.
Comment se défendre d'une impression presque d'épouvante quand on lit dans la presse de ces jours les récits détaillés des exécutions de Billioray, de Cluseret, de Valter, de Brunel, de Longuet, de Cambon, de Lefrançais qui tous échapperont au peloton d'exécution. Billioray sera fusillé 3 fois. 3 innocents auront payé pour lui. Ouvrons le Gaulois du 25 mai.
Billioray a été arrêté sur le territoire de Grenelle. Il s'est défendu, crispé, roulé à terre, demandant grâce. On l'a fusillé sur place. On l'a trouvé muni d'une grande quantité de billets de banque de 25 francs.
Que s'est-il passé, en fait ?
Un homme passait fort tranquillement, avenue de la Bourdonnais, lorsqu'un cri s'éleva.
C'est Billioray !
Des soldats l'empoignent. L'homme se débat violemment. Le capitaine Garcin dira plus tard devant la commission d'enquête parlementaire, avec une involontaire et cruelle ironie, qu'il a cherché à nier son identité. Mais 10 témoins aussitôt se trouvent pour le reconnaître. Le capitaine Garcin demande « Vous persistez ?»« Oui, s'écrie le malheureux. » Il est fusillé quelques instants plus tard. Une première décharge le blesse seulement. On l'attache à une clé pour l'achever. Ensuite, on songe à le fouiller. Ses papiers révèlent son état civil exact. Il s'agit d'un mercier du Gros Caillou nommé Constant, tout à fait étranger à l'insurrection.
À l'ambulance de la rue d'Allemagne, la scène est digne d'un atroce et trop vrai grand guignol. Écoutons ce récit d'un contemporain.
On commença par un bout de la salle. Les fédérés blessés descendirent comme ils purent et se firent fusiller avec une grande fermeté. Parmi les blessés se trouvait une femme qui avait eu la cuisse cassée par une balle et qui refusa de se laisser emmener. Elle avait 4 enfants qu'on lui amenait tous les jours. Le dernier auquel elle donnait le sein restait avec elle. 4 soldats vinrent la prendre. On prit une corde qu'on passa sous ses bras. On la traîna et on l'attacha à un des montants du portique du gymnase. On la tua.
Ce qui devrait être une sauvegarde devient parfois un risque de plus.
Au jardin du Luxembourg, on arrête des ambulanciers porteurs du brassard blanc à croix rouge. Ceux-ci se réclament de la Convention internationale de Genève. Un Versaillais bondit, fou de rage.
International ! International ! As-tu de l'international ? Au nom de Dieu !
L'évêque, membre du comité central et ancien ouvrier maçon, est conduit devant un colonel qui ordonne son exécution immédiate.
C'est un maçon, il voulait gouverner la France ?
Boulevard Picpus, on arrête 2 vieillards qui faisaient du thé dans leur chambre au 5e.
Ah, ils sont polonais ! Cela suffit !
On les fusille aussitôt.
Camille Pelletan cite le témoignage d'un officier versaillais qui déclare
« Tous ceux qui étaient italiens, polonais, hollandais, allemands étaient fusillés. »
Des cours prévotales improvisées siégeaient au parc Monceau, à l'école militaire, à l'observatoire, à l'école de droit, à l'école polytechnique, au collège de France, au Luxembourg, à la Monnaie, dans les mairies d'arrondissement, au collège Chaptal, au collège Rollin, au ministère des Affaires étrangères, au théâtre du Châtelet, avec, pour annexe, la caserne Lobo, où, nous dit Lissagaray, on fusillait sans répit.
Le tribunal était composé de 2 ou 3 officiers, et souvent d'un juge unique, officier de gendarmerie, officier de la garde nationale, officier de l'armée ou commissaire de police. L'une des plus célèbres de ces cours siégeait au Châtelet et était présidée par le colonel de la garde nationale, Louis Vabre, puissante brute, à taille de 100 gardes. Les captifs, parqués par milliers dans la salle du théâtre, étaient emmenés par paquets et, poussés de couloir en couloir, débouchaient dans le foyer. L'interrogatoire durait 1 minute.
Avez-vous pris les armes ? Avez-vous servi la commune ? Montrez vos mains.
Les réponses étaient à peine écoutées. On passait au suivant, pour lequel on ne se donnait pas la peine de poser à nouveau les questions.
Montrez vos mains.
Ce ne fut qu'en quelques rares occasions que les prisonniers furent libérés. Les juges n'avaient en général à choisir qu'entre 2 parties. Les ordinaires étaient envoyés au camp de Satory, les classés étaient conduits à la queue et fusillés. Les classés du Châtelet étaient emmenés à la caserne Lobo. Là, des gendarmes fatigués tiraient, sans même grouper leurs victimes et sans viser, d'un geste machinal. Quelques prisonniers seulement blessés se mettaient à courir. Alors l'intérêt des gendarmes s'éveillait. Ils canardaient les blessés, tels des cibles vivantes.
Un autre contemporain, Ulysse Parent, a raconté la comparution d'un modéré, le docteur Tony Moilin, à la cour prévotale du Luxembourg.
La cour siégeait lorsque la porte s'ouvrit avec fracas.
Une bande hurlante fit irruption dans la salle. Au milieu d'eux, un homme était traîné, livide, meurtri. Avec une brutalité inouïe, l'homme est jeté au pied du tribunal. Péniblement, il se relève et se tient debout, chancelant. On reconnaît le docteur Tony Moilin, qui, maire du 6e arrondissement, avait dès le 20 mars cessé de prendre part au mouvement communal, se cantonnant dans l'exercice de sa profession. Il avait été dénoncé, le détail est significatif, par un de ses voisins, docteur en médecine, son confrère.
Vous connaissez le sort qui attend ceux qui ont pris les armes contre l'armée régulière, surtout quand, comme vous, ils ont eu un commandement supérieur.
Je n'ai jamais eu de commandement. J'étais simplement chirurgien du bataillon de mon quartier.
Oui, c'est cela. Vous donniez vos soins aux hommes de la commune et faisiez fusiller nos soldats.
J'ai donné mes soins à tous. Et je n'ai fait fusiller personne.
Dès le 18 mars, vous envahissiez la mairie du 6e arrondissement et deveniez l'un des adeptes les plus fervents de la commune.
J'ai été désigné, après la retraite du gouvernement, pour les fonctions d'administrateur du 6e arrondissement. Fonctions que je n'ai remplies que pendant quelques jours. Quant à mes idées sur la commune, elles ne sont pas celles que vous pensez.
Tony Moilin se tut. Une rêverie soudaine semblait avoir envahi son esprit tout entier. Son regard était devenu vague. Il paraissait avoir oublié aussi bien le lieu où il se trouvait que l'accusation qui pesait sur lui. Et ce fut certainement plus en se parlant à lui-même que s'adressant au tribunal que je l'entendis murmurer.
Oui. La commune a commis des fautes. Elle s'est perdue en chemin. Ce n'est pas cela qu'il fallait faire. Ils n'ont pas su résoudre le problème.
Il prit sa tête entre ses deux mains comme s'il eût voulu comprimer les pensées tumultueuses qui l'assiégeaient. Puis, redressant tout son corps dans une fière attitude, le bras levé, le visage illuminé d'une voix claire et grave, il s'écria
« Moi, je suis pour la République universelle et pour l'égalité parmi les hommes. »
Les principes que vous énoncez ne font que confirmer les renseignements que nous avons sur votre compte. Du reste, la notoriété attachée à votre nom suffit à nous convaincre. Vous êtes l'un des chefs du socialisme et un des hommes les plus dangereux. Ces gens-là, on s'en débarrasse. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?
Non.
Vous êtes condamné à être passé par les armes. Il vous sera donné signification du jugement.
Messieurs, je laisse une compagne, ma femme. Me serait-il permis, avant ma mort, de régulariser ma position vis-à-vis d'elle et devant la loi ? Messieurs, j'y tiendrai beaucoup.
Si cela est possible, ce sera fait. Emmenez le condamné.
Quelques heures plus tard, Tony Moilin est conduit dans le jardin du Luxembourg et fusillé. Sa veuve réclamera en vain son corps.
À quel chiffre estimer le nombre des morts de ces jours atroces ? 20 000, d'après les estimations les plus objectives. 20 000 fédérés tués en combattant ou exécutés sommairement. 20 000 morts. D'avril 1793 à la fin de juillet 1794, la terreur n'avait fait que 2596 victimes à Paris. Pierre Dominique.
Ceux qui ont échappé au peloton d'exécution sont envoyés à Satory. Envoyés, c'est vite dit. On a beau y être envoyé, on n'y arrive pas toujours. D'abord, si l'on ne veut pas ou si l'on ne peut pas marcher, on vous abat en route. Et puis, sur le chemin de Satory, il y a Galifet. Il est, lui, pour les grandes exécutions. Il en a commandé au Mexique, mais le pays n'est pas très peuplé. Paris, grâce à Dieu, l'est davantage. Il se tient donc sur le chemin, fume, boit, joue, caresse une maîtresse de rencontre, en attendant. Son ordonnance l'avertit.
Une colonne en vue, mon général.
Donnons ici la parole à un journaliste étranger, rédacteur au Daily Mail.
La colonne des prisonniers s'arrêta dans l'avenue et fut rangée sur 4 ou 5 rangs sur le trottoir, face à la chaussée. Le général Marquis de Gallifet et son état-major mirent pied à terre et commencèrent une inspection par la gauche du rang. Descendant lentement et reluquant les rangs, le général s'arrêtait de ci, de là, frappant un homme à l'épaule ou le faisant sortir des rangs. Dans la plupart des cas, sans plus ample conversation, l'individu ainsi choisi était poussé au centre de la chaussée où une petite colonne supplémentaire fut ainsi bientôt formée.
D'une voix sèche, Gallifet proférait de temps à autre une phrase qui était une condamnation.
« Vous avez l'air intelligent. Sortez des rangs !»
À un autre,
« Vous avez une montre. Vous deviez être fonctionnaire de la commune. Sortez des rangs !»
D'une colonne, une femme s'élance, se jette à genoux, implorant, ensanglotant sa grâce et protestant de son innocence.
« Madame, j'ai fréquenté tous les théâtres de Paris, ce n'est pas la peine de jouer la comédie !»
Et il la fait mettre à part, citant de nouveau le journaliste anglais.
Je suivis le général et je cherchais à me rendre compte de ce qui pouvait le diriger dans ses choix. Je m'aperçus qu'il n'était pas bon d'être sensiblement plus grand, plus petit, plus sale, plus propre, plus vieux ou plus laid que ses voisins. Un individu notamment dut à son nez cassé d'être libéré des maux de ce monde. Le général ayant choisi 100 de prisonniers, un peloton d'exécution fut formé et la colonne reprit sa marche. Quelques minutes après, nous entendîmes derrière nous des décharges qui durèrent 15 minutes. C'était l'exécution sommaire de ces malheureux.
Le dimanche 28, Gallifet fait sortir du rang 111 captifs qui tous ont les cheveux blancs.
Vous, vous avez vu juin 1848, vous êtes plus coupable que les autres.
Et sans attendre, les prisonniers sont passés par les armes. De Versailles, un grand nombre de prisonniers furent envoyés sur des pontons dans les ports de mer. Élisée Reclus, le grand géographe, a décrit l'un de ces affreux voyages et l'on se croirait transporté à une époque beaucoup plus récente.
Vous avez sans doute entendu parler des wagons à bestiaux dans lesquels nous avons été transportés à Brest. Nous étions 40 empilés dans le wagon, jetés les uns sur les autres. C'était un fouillis de bras, de têtes et de jambes. Les bâches étaient soigneusement fermées autour de la cargaison de chair humaine. Nous ne respirions que par les fentes et les interstices du bois. On avait jeté dans un coin un tas de biscuits en miettes, mais jetés nous-mêmes sur ce tas sans savoir ce que c'était, nous l'avions écrasé, réduit en poussière. Pendant 24 heures, pas d'autres vivres, pas de boissons. Les excréments de nos malades se mêlèrent à la boue de nos biscuits. La folie s'empara de plusieurs d'entre nous. On se battait pour avoir un peu d'air, un peu de place. Plusieurs d'entre nous, hallucinés, furieux, étaient autant de bêtes fauves.
Voilà, c'est fini. On condamnera encore, on fusillera un peu, légalement cette fois. Certains seront bannis, d'autres envoyés au bagne de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, on tâchera d'oublier le cauchemar. Mais il y a des choses qu'il est bien difficile d'oublier. Thank you. tribune de l'Histoire vient de vous présenter L'agonie de la Commune, une évocation d'Alain Decaux, réalisée par Alain Barou.
Avec aujourd'hui Louis Arbessier, Pierre Delbon, Robert Parti, Jean-Louis Maury, Gaëtan Jor, Jacques Bretonnière, Pierre Constant, Marcel Lestang, Alain Roland.
Et les auteurs de l'émission, André Castelot, Alain Decaux et Colin Simard.
C'était L'agonie de la Commune, un numéro de la tribune de l'Histoire d'Alain Decaux, André Castelot et Colin Simard, réalisé par Alain Barou et diffusé pour la première fois le 23 mai 1962 sur la chaîne parisienne.